Afrique, le monde. Aujourd'hui, au micro, Idrissa Seydoudia, bonjour. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a averti lundi que son pays frappera l'Iran partout dans la région, après avoir accusé les Iraniens d'être à l'origine d'une explosion à bord d'un navire israélien la semaine dernière en mer d'Oman. Il est clair que c'est un acte iranien, l'Iran est le plus grand ennemi d'Israël et nous allons le frapper partout dans la région, a déclaré M. Netanyahu à la radio. En Afrique, deux personnes ont été tuées et cinq blessées dimanche à N'Djamena au Tchad lors d'une tentative d'arrestation d'un opposant. Nathalie Barge nous donnera davantage de détails. En République démocratique du Congo, 10 civils ont été tués dans la nuit de samedi à dimanche par des éléments ADF dans l'est du pays. Bagasikoura nous en parlera. Et puis, le processus interlibyen chapeauté par l'ONU, qui doit permettre de désigner un gouvernement de transition, a été entaché de faits de corruption, d'après des experts de l'ONU. Nous y reviendrons dans quelques instants avec Michel Joseph. Près de 100 migrants, en majorité africains, qui tentaient de rejoindre l'Europe par la mer, ont été secourus dimanche au large de la côte ouest de la Libye, alors qu'une vingtaine de passagers sont portés disparus, selon l'AFP. Plus de 1200 migrants ont péri en 2020 en Méditerranée, selon l'OIM. Coronavirus, le Nigeria, pays le plus peuplé d'Afrique, recevra mardi près de 4 millions de doses de vaccins contre le Covid-19 financées par le dispositif COVAX, destiné en particulier aux pays défavorisés, ont annoncé dimanche les autorités. Cette livraison fait du Nigeria le troisième pays d'Afrique de l'Ouest à bénéficier du dispositif COVAX après le Ghana et la Côte d'Ivoire, est-il indiqué. Le Nigeria comptait dimanche 155 417 cas de Covid-19, dont 1905 décès. Et en Afrique du Sud, avec le pays le plus touché du continent avec plus de 1,5 million de cas et 50 000 morts, le président Cyril Ramaphosa a annoncé hier soir un nouvel allègement dès lundi des restrictions imposées pour endiguer la propagation du Covid-19 après une baisse spectaculaire du nombre de contaminations et des admissions hospitalières. Cet allègement va permettre une reprise de la plupart des activités économiques dans un pays à l'économie sinistrée par le virus. Ici aux États-Unis, des représentants américains ont déclaré dimanche que les premières livraisons du vaccin contre le coronavirus développé par Johnson & Johnson, le troisième autorisé dans le pays après ceux de Pfizer et de Moderna, allaient débuter dans la soirée et que les doses devraient être disponibles à compter de mardi. Par ailleurs, l'ancien président Donald Trump, de retour dans l'arène politique face à une foule de conservateurs enthousiastes, a affirmé dimanche que la survie des États-Unis dépendait des conservateurs, flirtant avec l'idée de se représenter à la présidentielle en 2024. L'ex-dirigeante birmane Aung San Suu Kyi, accusée par la junte d'avoir enfreint d'obscures règles commerciales et sanitaires et tenues au secret par la junte depuis son arrestation le 1er février, comparaît ce lundi devant la justice en vidéoconférence et semble en bonne santé selon son avocat. L'ONU dispose d'informations crédibles selon lesquelles au moins 18 personnes ont été tuées dimanche par les forces de sécurité qui ont ouvert le feu pour disperser des rassemblements pro-démocratie dans plusieurs villes du pays, soit la répression la plus meurtrière depuis le putsch. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a exigé dimanche la libération immédiate des militants pro-démocratie détenus à Hong Kong en vertu de la loi sur la sécurité nationale imposée par Pékin. Nous condamnons l'arrestation et l'inculpation des candidats pro-démocratie aux élections de Hong Kong et exigeons leur libération immédiate, a tweeté M. Blinken. Le Monde, aujourd'hui, VOA Afrique, Washington DC, en votre compagnie Idrissa Seydoudia. Restez à l'écoute pour la suite de nos informations. suite de nos informations, en République démocratique du Congo, 10 civils ont été tués dans la nuit de samedi à dimanche dans deux attaques attribuées aux rebelles ADF en Ituri et dans le Nord Kivu, dans le nord-est du pays, selon l'armée congolaise. Bagasekura.
Le lieutenant Jules Ngongo, porte-parole de l'armée dans la province de l'Ituri, affirme que 8 civils ont trouvé la mort décapités dans le village de Boyo en Ituri. Le colonel Ngongo met en cause les ADF qui ont aussi tué, selon lui, deux autres civils par balle à Kainama. Kainama est un village situé dans l'extrême nord de la province du Nord Kivu, à la limite avec l'Ituri. Il est à 5 km de Boyo. Installé dans l'est de la RDC depuis 1995, les rebelles islamistes ADF originaires de l'Ouganda commettent des massacres sur des civils dans les régions de Beni et Irumu. L'armée congolaise mène des opérations militaires dans ces zones sans parvenir à mettre fin aux tueries. Depuis près de 3 décennies, l'est de la RDC est déstabilisé par la présence de dizaines de groupes armés locaux et étrangers. Le baromètre sécuritaire du Kivu a recensé au moins 122 groupes armés actifs dans les provinces de l'Ituri, du Nord Kivu, du Sud Kivu et de Tanganyika.
Au Tchad, 2 personnes ont été tuées et 5 blessées, dont 3 parmi les forces de l'ordre, hier à N'Djamena, lors d'une tentative d'arrestation de l'opposant Yaya Dilo Djirou, qui a déposé vendredi sa candidature à la présidentielle du 11 avril face au président Idriss Déby Itno. Nathalie Barge.
Suite à un refus systématique depuis 48 heures de M. Yaya Dilo, appuyé d'un groupe de personnes armées, de répondre à 2 mandats judiciaires, celui-ci a vertement défié l'autorité de l'État en opposant une résistance armée, a indiqué le porte-parole du gouvernement, Chérif Mahamat Zéné. Les forces de défense et de sécurité ayant essuyé des tirs d'armes venant du domicile de l'opposant n'ont pas eu d'autre choix que de riposter en légitime défense, a-t-il affirmé. Ancien chef rebelle Yaya Dilo Djirou avait rallié en 2007 le président Déby, dont il est devenu ministre avant d'occuper plusieurs postes de conseiller à la présidence. Il fut ensuite représentant du Tchad à la CEMAC jusqu'en 2020. Il est sous le coup de 2 mandats d'arrêt délivrés après une plainte l'an dernier pour diffamation envers la première dame Inda Déby. Monsieur Dilo avait dénoncé une convention signée entre celle-ci et le gouvernement dans le cadre de la lutte contre le coronavirus.
Le processus interlibyen, chapeauté par les Nations Unies, qui doit nommer un gouvernement de transition, a été entaché de pairs de l'ONU, qui évoque le versement de pots de vin à au moins 3 participants. Michel Joseph.
Selon un extrait du rapport final du comité des experts de l'ONU chargé de l'embargo sur les armes et des sanctions pour la Libye, 2 membres du forum du dialogue politique ont offert des pots de vin de 150 000 à 200 000 dollars à au moins 3 participants en échange d'un engagement à voter pour Beba comme premier ministre. L'un d'eux a éclaté de colère dans le hall d'un hôtel à Tunis en apprenant que certains participants auraient pu recevoir jusqu'à 500 000 dollars alors qu'ils n'en avaient reçu que 200 000, est-il précisé dans l'annexe 13 de ce rapport qui doit être remis au Conseil de sécurité le mois prochain. Début février, les participants au dialogue politique ont désigné une autorité intérimaire composée du premier ministre milliardaire Abdelhamid Beba et d'un conseil présidentiel de 3 membres. Des organisations libyennes avaient appelé à enquêter sur des allégations de corruption visant à influencer le processus de sélection des futurs responsables. Cette affaire survient alors que Beba doit obtenir la confiance du Parlement pour son gouvernement avant le 19 mars.
La Minute Éco, Nanit Talani.
Le Mali a obtenu 87,798 milliards de francs CFA sur le marché financier de l'Union monétaire ouest-africaine suite à son émission simultanée d'obligations de relance du Trésor. Selon Financial Afrique, ces fonds permettront aux autorités de Bamako de couvrir les besoins financiers du budget du pays dans le cadre d'un plan de relance pour contrer les effets du coronavirus et renouer avec les performances d'avant la crise sanitaire. En Zambie, la mine d'émeraude KGM Gemfield compte rouvrir en mars après une fermeture de près d'un an à cause du Covid. L'an dernier, Gemfield a connu une baisse de la production, faisant chuter ses revenus de 78% à cause de la fermeture de ses mines de pierres précieuses, mais la compagnie a pu éviter tout licenciement. Elle a même continué de payer 80% du salaire des employés en congé. Au Botswana, la société d'Ebswana veut augmenter de 38% sa production de diamants cette année pour produire 23 millions de carats. Selon Reuters, les revenus d'exportation du Botswana ont dégringolé de 30% en 2020 suite à la fermeture des frontières et la baisse de la demande mondiale. Botswana est une co-entreprise entre l'État botswanais et la société anglo-américaine de Beers. Pour terminer, le marché global du café devrait connaître un surplus de 5 millions de sacs pour la campagne 2020-2021. L'Organisation internationale du café estime que ce surplus pourrait compenser le grand déficit prévu en 2021-2022.
Et maintenant, la page sport avec Élisée Ongpatine. Élisée, bonjour.
Bonjour Idrissa et bonjour à tous.
Football, deux matchs de Ligue des champions de la CAF étaient au programme hier.
Oui, des matchs en retard, décalés pour des raisons de crise sanitaire. Les pays du Maghreb refusent d'accueillir des clubs sud-africains sur le sol à cause du variant du Covid-19 présent en Afrique du Sud. Du coup, les matchs ont été délocalisés. Et à Dar es Salaam, en Tanzanie, le Mamelodi Sundowns a réussi à tirer son épingle du jeu. Les Sud-Africains n'ont fait qu'une bouchée des Algériens du CL Berrida 5-1. Un match du groupe B comptant pour la deuxième journée. Et puis, première journée en retard dans le groupe C avec un Wydad de Casablanca fidèle au rendez-vous à Ouagadougou au Burkina Faso face au second club sud-africain engagé dans cette compétition, les Kaizer Chiefs. Un score et une victoire sans appel de 4-0 pour les récents demi-finalistes de cette Ligue des Champions. Après leur victoire sur Petro Atletico il y a une semaine, les Rouges occupent seuls la première place de ce groupe avec 6 points.
Au Cameroun, le championnat a officiellement repris ce week-end.
Et oui, les supporters attendaient ça avec impatience après un an sans football de club. Fin de cette longue interruption causée par le coronavirus et surtout par des conflits entre la Ligue et la FECA Foot. Le match d'ouverture mettait aux prises au stade Amadou Ahidjo, le champion en titre, le PDVD de Bamenda à Yaoundé 2. Pour VO Afrique, Emmanuel Jules Ntap a suivi ce premier match.
L'ouverture de la saison sportive 2020-2021 en Elite 2 s'est soldée par la victoire de Renaissance d'Ngoumou, qui a battu AS Matelu de Douala sur le score de 2-1. En Elite 1, le champion sortant PWD de Bamenda a entamé la nouvelle saison par une courte victoire, 1-0, face au nouveau promu FC Yaoundé 2. Mais la reprise du championnat est davantage salutaire pour les joueurs. Joël Boum, défenseur du PWD de Bamenda, et Pierre Essoso, attaquant de FC Yaoundé 2.
On a fait presque un an à la maison, donc nous sommes heureux de retrouver notre travail. Aujourd'hui, le championnat a recommencé et on voit qu'on a joué le match d'ouverture aujourd'hui. On a perdu contre PWD de Bamenda, mais on va rester travailler pour la suite du championnat.
Soulagement aussi pour les encadreurs. Pierre Billon, entraîneur de FC Yaoundé 2.
Il fallait que mes enfants commencent à jouer parce que pour la plupart, ils n'ont pas encore un match de Ligue 1.
Les autres affiches de la première journée se disputent les 6 et 7 mars prochains. L'exécutif intérimaire de la FECA Foot, conduite par Sedou Mbombondjoya, a finalement reçu le soutien de l'État pour lancer la nouvelle saison sportive au détriment de la partie adverse, conduite par Albert Mbida. Yaoundé, Emmanuel Jountap, VOA Afrique.
Cette première journée se poursuivra le week-end prochain.
Reprise également au Mali, mais on en est déjà à la deuxième journée.
Tout à fait. Et en clôture de cette deuxième journée dans le groupe A, le Stade malien a été accroché hier par le Lafia Club de Bamako, score 1-0. C'est le CS Dougoualofila qui est leader au classement avec 6 points suite à sa victoire de 1-0 devant Bougouni. Au niveau du groupe B, l'association sportive de Korofina Asco, vainqueur 2-0 du Nana de Koulikoro, profite du nul 1-1 concédé par Djoliba devant Yélène pour prendre seule la première place avec aussi 6 points. Et puis, on jouait la 9e journée au Sénégal et Diamba, après avoir battu Stade Mbou 2-1, prend les commandes du championnat avec 18 points, juste devant Génération Foot 17 points victorieux de Djaraf, score 2-0.
En République démocratique du Congo, Élysée, le championnat aborde sa phase retour avec 3 matchs choc.
Exactement, Idrissa. Et à Lubumbashi, le derby entre le FC Lupopo et le TP Mazembe, les deux géants de la capitale du cuivre, a accouché d'un triste nul 0-0. Mazembe garde la première place au classement avec 36 points. Les cheminots avec 31 points sont cinquièmes. À Kindu, au stade Joseph Kabila, Sanga Balende n'a pas résisté devant Manema Union puisque battu 4-1. Le club de Mujibai se laisse doubler à un point au classement par son adversaire du jour qui est désormais troisième avec 34 points. Et puis, à Kolwezi, au stade Dominique Du, Simba FC, vainqueur 3-1 de Renaissance du Congo, réalise un bond important au tableau avec la 13e place. Malgré cette défaite, Renaissance est toujours 6e.
Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique en votre compagnie Idrissa Seydoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. La tension reste vive au Niger après la proclamation des résultats du second tour de l'élection présidentielle qui donne vainqueur Mohamed Bazoum. Son challenger, Mahaman Ousmane, réclame aussi la victoire. Les manifestations ont cependant baissé d'intensité ce week-end, alors que près de 500 personnes sont arrêtées. Le point avec notre correspondant à Niamey, Abdulrazak Idrissa.
Le week-end a été calme à Niamey et dans les autres régions du pays, notamment à Zinder, où se trouve le candidat Mahaman Ousmane. Ce dernier s'est d'ailleurs prononcé sur la vague d'arrestations et d'interpellations qui a suivi les manifestations des 4 derniers jours.
Les objectifs visés par ces opérations-là consistent à cacher le hold-up électoral et qui ne passera pas dans ce pays-là. Tazarche n'a pas passé, eh bien, ce hold-up déguisé ne passera pas non plus. En tout cas, nous sommes décidés. Nous sommes disposés à ne pas nous laisser faire. Il faut que ce soit bien entendu et bien compris par tous. J'interpelle également la communauté internationale sur les risques de dégénérescence de cette situation post-électorale du Niger, qui pour le moment peut être encore gérable, contrôlable, pourvu que le suffrage exprimé par les citoyens soit fidèlement reflété dans les résultats. Il ne faut pas que ces élections soient prises comme prétexte pour régler des comptes antérieurs. Cela est inacceptable.
Ce dimanche matin, des défenseurs des droits humains ont vainement tenté de rencontrer les personnes arrêtées et interpellées en marge de ces manifestations. Moussa Tiangari, de l'association Alternative Espace Citoyen.
On nous empêche d'avoir accès sous prétexte que seuls des parents très proches pourraient avoir accès à ces personnes, alors que nous ne venons pas en qualité de parents ou en notre qualité, nous venons en notre qualité d'acteurs de la société civile pour faire notre travail. On va aviser pour demander à avoir accès, parce qu'on doit pouvoir faire notre travail d'acteurs de la société civile, quel que soit par ailleurs ce qu'on reproche aux gens. On ne peut pas empêcher aux organisations de s'enquérir dans quelles conditions des gens sont. C'est quand même plusieurs personnes qui sont arrêtées et des personnalités. Et c'est notre rôle, nous, de faire ce travail-là.
Autre conséquence de cette situation post-électorale au Niger, c'est la coupure de la connexion Internet depuis mardi sans explication. Situation que dénoncent les citoyens.
Bon, compte tenu du contexte, presque chacun estime que c'est l'État qui a pris la décision, mais ce n'est pas bien. Il faut qu'on apprenne à vivre démocratiquement, à fonctionner démocratiquement, à respecter les règles démocratiques.
C'est une violation des droits humains et que ce n'est pas une bonne chose pour nos gouvernants. Ils doivent nous permettre effectivement de communiquer. L'État du Niger doit faire en sorte de rétablir l'Internet ici et maintenant pour le bien-être des citoyens.
En plus des appels au rétablissement de la connexion Internet, beaucoup d'appels à l'apaisement ont également été lancés par des institutions, des structures organisées et des citoyens. Abdelrazak Idrissa, à Niamey, pour VOA Afrique.
Niger toujours, le principal opposant Amadou Hama est accusé d'être à l'origine de ces troubles consécutifs à la proclamation des résultats de la présidentielle. Pour analyse, Eric Manirakiza a joint au Royaume-Uni l'analyste politique et professeur de philosophie Sidi Bella.
Parce que ce qui se passe en ce moment, c'est du jamais vu au Niger. Nous avons prévenu maintes reprises dans des conférences de faire attention aux crises post-électorales. Puis nous avons l'expérience des pays limitrophes tels que la Côte d'Ivoire. Donc il fallait éviter ça. Et quand on regarde, en fait, quand on fait une rétrospective de tout le processus électoral, on se rend à l'évidence que ce qui se passe aujourd'hui n'est pas du tout une surprise. C'est une conséquence logique, je dirais, de la malpréparation de tout ce processus, puisqu'il n'y a jamais eu consensus. Et l'opposition, c'est la dernière minute que la région finalement la majorité pour aller aux élections. Donc, ne pas reconnaître les résultats, bon, nous pouvons le comprendre parce que l'opposition quand même reproche au pouvoir de fabriquer certains résultats, surtout dans la zone de Tawa. Je pense que ce qui se passe en ce moment, bon, il faut quand même vraiment un dialogue, il faut que les deux parties prenantes s'asseyent pour discuter et espérons que la Cour constitutionnelle sera à mesure de les départager de manière objective.
Justement, est-ce que les deux parties sont prêtes à accepter le verdict de la Cour constitutionnelle?
En ce moment, après avoir écouté le chef de l'opposition, Monsieur le Président Maman Ousmane, il dit qu'il est en ce moment en train de compiler toutes les preuves pour démontrer effectivement qu'il y a eu fraude dans la zone de Tawa. Donc, a priori, dire qu'il n'y aura pas un dialogue possible. Je pense qu'il est prêt à aller, n'est-ce pas, dans la légalité et puis écouter, attendre le verdict de la Cour constitutionnelle. Quel que soit ce qu'on peut reprocher à cette Cour-là, quand on prend, n'est-ce pas, l'expérience passée, la validation des candidatures, tout ça, donc il y a vraiment un grand discrédit cette institution. Mais nous osons espérer que pour une question de paix sociale, pour restaurer la paix sociale, la Cour constitutionnelle sera à mesure de lire les faits et de les apprécier de manière objective. Parce qu'il y va, n'est-ce pas, je dirais même de l'existence de ce pays.
Donc vous vous appelez à la responsabilité de toutes les parties, sur tous les échelons?
Absolument. Parce que le Niger est un bien commun. Nous, individus, nous sommes de passage. Mais le pays en tant qu'institution, enfin en tant que pays, les institutions restent et il faut tout faire. Il faut vraiment tout faire pour préserver cette paix sociale qu'on a toujours connue. Il faut la préserver, c'est très 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 important. Nous avons quand même une grande responsabilité devant les générations futures.
Joint au Royaume-Uni, l'analyste politique et professeur de philosophie, Sidi Bilan.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Au Burkina Faso, les autorités ont libéré une vingtaine de terroristes dans le cadre des négociations avec Iyad Aghali. C'est la révélation faite par le journal d'investigation L'Événement. Les autorités n'ont pas réagi, mais l'affaire suscite des réactions dans le pays où les autorités ont régulièrement insisté sur le fait qu'elles ne négocieraient jamais avec les terroristes. De Ouagadougou, notre correspondant Lamine Traoré.
Au moins une vingtaine de présumés terroristes ont été libérés en 2020 par le gouvernement burkinabé dans le cadre de négociations pour la paix avec le GSIM, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. Le président Kabore a insisté à plusieurs reprises sur sa détermination à ne pas négocier avec les groupes armés, d'où l'incompréhension au sein de l'opinion suite à cette information du journal L'Événement.
C'est avec consternation que nous avons appris la libération de certains terroristes par le gouvernement burkinabé à la suite d'une négociation.
Victorien Ouédraogo, étudiant.
Ce texte se veut contraire aux propos du président du Faso qui disait ne pas négocier avec les terroristes. Il est du devoir de l'État de garantir l'intégrité du territoire tout en usant de son autorité, en ne cédant aucune portion de son territoire à un quiconque groupe d'individus. Pour moi, négocier n'est pas une bonne solution pour lutter contre le terrorisme, mais il faut mettre l'accent sur les renseignements militaires et l'équipement.
Ilyas Nyoumou pense qu'il s'agit d'un revirement qui soulève des questions.
Je vois qu'il a trahi un peu sa conviction de départ. Mais s'il reconnaît que c'est un peu difficile de traiter sans négociation, c'est très bien. C'est bien de se faire de sa part. Mais désormais, c'est mieux de travailler pour éviter les fuites. Dans un état où il a dit haut et fort devant tout le monde, nous l'avons tous écouté, il a dit qu'on ne va pas négocier avec les terroristes. Les gens sont là. Il a même eu à dire que le terroriste doit aller négocier avec Blaise Compaoré, que lui n'est pas Blaise Compaoré.
Du côté des analystes et autres observateurs, cette négociation avec des terroristes permettra d'amener une certaine accalmie dans le pays. Mamoudou Savadogo, expert en sécurité, soutient que la question de la négociation était une étape inéluctable.
Cette tentative de négociation, c'est une prise de contact, ce qui permet d'identifier les groupes et aussi de les catégoriser. On a affaire à des insurrections armées locales, c'est-à-dire des gens qui posent des conditions acceptables pour lesquelles on peut faire des compromis. Ça peut contribuer à diminuer la violence sur une partie du territoire parce que ce n'est pas avec tous les groupes qu'on a négocié.
Wassim Nasr, journaliste et spécialiste des mouvements djihadistes, affirme qu'il est possible que ces négociations soient la cause de l'accalmie actuelle au Burkina.
Ces libérations ont participé au calme actuel dans la région de Djibo. Ça prouve, mais c'est possible. On voit que, vu que les négociations ont été conduites directement avec le JNIM, avec Iyad Gali, que Iyad Gali est en train de contenter Amadou Koufa, donc son second dans le groupe, avec ses libérations. Donc on voit encore que le JNIM et Iyad Gali font de la politique.
Il y a quelques jours, le président français Emmanuel Macron avait indiqué que son homologue Kabore avait reconnu, lors du dernier sommet du G5 en N'Djamena, avoir tenu un dialogue politique avec les effecteurs de groupes terroristes à Djibo, dans le Sahel burkinabé. Le gouvernement burkinabé, à travers son porte-parole, a nié toute implication de l'État dans ces négociations. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Restez branchés sur VOA Afrique à Ouagadougou sur 102.4 FM au Burkina Faso.
Au Nigeria, les enlèvements contre le paiement de rançons sont devenus une activité courante dans le pays. Ce dimanche encore, des parents attendaient des nouvelles de la libération de centaines d'élèves enlevés dans des internats de l'État de Zamfara. En quelques années, cette pratique a pris de l'ampleur. Gilbert Tamba, notre correspondant à Abuja.
La multiplication récente des attaques a suscité des inquiétudes quant à la montée de la violence de la part des gangs et groupes armés qui visent désormais des écoles. Ces attaques et enlèvements contre le versement des rançons sont surtout présents dans les États du Nord. Récemment, 42 personnes, dont 27 élèves, ont été enlevées par un gang armé qui a pris d'assaut l'école secondaire gouvernementale dans le district de Gagara de l'État. Les élèves enlevés et le personnel ont retrouvé leur liberté et ont été reçus par le gouverneur de l'État de Nadja après avoir passé au moins entre 9 à 10 jours en captivité. On parle de plusieurs centaines le nombre de victimes d'attaques ou d'enlèvements dans cette partie du pays. Hawa Abdul Salam est avocate. Elle a été déjà enlevée et raconte son expérience entre les mains de ses ravisseurs.
C'était une terrible expérience ce jour-là. On ne s'attendait pas à une telle situation. Nous revenions d'une cérémonie de mariage de la cousine de notre sœur pour rejoindre Mina dans un minibus. En route, juste au niveau d'un village appelé Tungu, nous avions vu des hommes armés inconnus. Ils ont commencé à tirer vers nous et finalement, ils ont obligé notre chauffeur à arrêter le véhicule.
Dans plusieurs autres États du Nord, les autorités locales sont conscientes de la gravité de la situation. Le président Buhari a remplacé ses chefs militaires de longue date ces mois-ci dans un contexte d'aggravation de la violence au Nigeria. Ahmed Ibrahim Matani, secrétaire général du gouvernorat de l'État de Nadja, l'un des États ayant de vastes étendues de territoire où les criminels profitent des grandes forêts pour mener leurs activités.
Nous avons des problèmes de sécurité dans notre État et cela s'explique notamment par le fait que notre État représente 10% du territoire national. Une grande partie des endroits de notre territoire est constituée de forêts, donc les criminels prennent ces forêts comme leur sanctuaire et opèrent à partir de là.
Au sein de la population, on se pose beaucoup de questions sur l'incapacité du gouvernement du président Buhari, un ancien militaire, à endiguer le phénomène des enlèvements. L'expert en sécurité, Kabiru Adamu, pense que c'est un défi international.
C'est un phénomène international. Apparemment, partout dans le monde où vous avez un conflit et la détérioration des conditions de sécurité, comme c'est le cas maintenant au Nigeria, les écoles sont ciblées. En Afghanistan, au Pakistan, au Congo et dans plusieurs autres pays du monde, vous voyez que ce sont les écoles qui sont visées.
La violence et l'insécurité ont aggravé les défis économiques auxquels sont confrontés les citoyens du premier pays exportateur du pétrole d'Afrique qui peinent à faire face à une baisse des revenus due à une chute des prix du brut en plus de l'effet de la pandémie COVID-19. Gilbert Tamba, Abuja, VOA Afrique.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. Vous étiez en compagnie d'Idrissa Seloudia et de Michel Joseph à la mise en onde. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.